Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Je suis un juif alsacien, donc doublement juif et doublement alsacien, écrit Claude Vigée dans Les Orties Noires. Né Strauss en 1921 à Bichevillers, le poète Claude Vigée est issu d'une famille juive alsacienne. En 1939, évacué puis expulsé d'Alsace avec tous les siens à la suite de l'occupation nazie, il trouve refuge à Toulouse où il reprend ses études de médecine et rejoint un groupe de résistance juive. Il prend le pseudonyme de Vigée pour signer ses premiers poèmes, publiés dans la revue Poésie 1942 de Pierre Segers. De son premier poème, La lutte avec l'ange, Vigée dit « C'était la lutte avec l'ennemi, avec celui qui cherchait ta mort, qui t'attend dans la nuit pour te détruire, pour te supprimer, pour faire que tu n'aies pas de temps, que tu n'aies pas de lendemain. » En 1943, c'est l'exil aux États-Unis où il s'installe jusqu'en 1959, avant de partir vivre en Israël. Un départ vécu comme un retour. Il y apprend l'hébreu et y devient professeur de littérature française et comparée à l'université hébraïque de Jérusalem, où il enseignera pendant 23 ans. C'est en Israël que Claude Vigée commence à écrire des poèmes en alsacien. L'alsacien, la langue de l'enfance, la langue familiale. Cette langue, il l'évoquait en 2001 alors qu'il revenait vivre en France, dans le premier volet d'une série d'Avoix nues que lui consacrait Michel Cazenave.
Claude Vigée, il me semble que pour arriver à comprendre votre œuvre et en même temps la trajectoire de votre vie et l'interdépendance, la relation entre les deux, il me semble donc qu'il faut commencer, si vous le voulez bien, par votre enfance. Dans la mesure où, d'une part, vous êtes d'un milieu juif, mais d'un milieu juif très particulier, qui est le milieu juif alsacien. Et que, apparemment, il y a quand même un enracinement très fort de votre part, à la fois dans la judéité, à la fois du côté de l'Alsace.
Oui, parce que cette communauté juive d'Alsace est très ancienne. Les premières traces écrites datent du 7e siècle. Et on pense qu'il y a eu, bien avant déjà, à l'époque romaine, donc gauloise, romaine, avant l'invasion germanique des colonies ou des communautés juives, en tout cas des populations juives, qui avaient suivi les légions étrangères le long du Rhin. Puis, à travers les siècles, les persécutions, des moments de répit, je pense que l'existence des juifs en Alsace au Moyen-Âge a été très problématique. Mais enfin, sous le Saint-Empire, ils sont restés là jusqu'au moment de la grande persécution liée aux croisades. Quand les croisades ont commencé, puis la terrible épidémie de peste noire au XIVe siècle, qui a ravagé toutes ces régions, comme le reste de l'Europe, a produit également pratiquement la disparition des communautés juives qui ont été carrément exterminées. Après cela, on retrouve les juifs dans les villages autour de Strasbourg. Ils ont été interdits de séjour à Strasbourg jusqu'à la Révolution française. Je sais aussi, les historiens ont fait des recherches pendant la guerre de 30 ans qui a ravagé toutes ces contrées. Il y a eu également des persécutions violentes, des expulsions, des retours, enfin, tout le drame de la diaspora juive dans l'Europe chrétienne à travers les siècles. Mais enfin, je ne sais pas trop comment, quelques familles, quelques groupes tout petits se sont maintenus jusqu'au moment de la conquête française. Alors, la guerre de 30 ans s'est terminée par le traité de Westphalie, l'annexion, donc 1648, l'Alsace, ou les trois quarts de l'Alsace ont été annexés à la couronne de France, et de ce fait même, ils ont cessé d'être livrés à l'arbitraire des baronnies, des villes libres, de la décapole d'Alsace et des petits princes locaux. Et grâce à cela, la survie est devenue plus facile. Donc avec la conquête française, sous Louis XIV, Louis XIII, Louis XIV, se sont établies de toutes petites communautés et ma famille, des deux côtés, maternelle, paternelle, descend d'un de ces petits groupes.
intendeva uno solo creatore Baruch Baruch Shemo. Due chi sapeva.
Du côté paternel, il y a eu une communauté juive d'abord toute petite dans un village qui s'appelait Gundershofen, qui est entre près de Niederbronn du côté des Vosges, entre Strasbourg et Niederbronn. Quelle était leur occupation? Ils étaient tous très de stricte observance, très pieux, mais à partir du XVIIIe siècle, assez ignorants. Stricte observance et ignorance allant de pair, parce que les écoles talmudiques, finalement, ont disparu en Alsace, pour des raisons qui s'expliquent économiquement et politiquement. Mais ces petites gens, c'était de petites gens, gardaient très, très strictement les rites, les croyances, un petit peu en parallèle avec les catholiques et les protestants, puisqu'il y avait en Alsace les deux églises, n'est-ce pas, la catholique et la protestante. Alors ma famille paternelle, donc, elle est là. Des amis à nous ont retrouvé des actes de mariage contractés par devant le rabbin de cette communauté de Gundershofen, en hébreu, bien sûr, les actes sont en hébreu, mais enregistrés auprès du notaire, des notaires royaux, chrétiens par conséquent, dont les études se trouvaient dans les petites villes des environs. Et ils se sont maintenus dans ce village jusqu'après la Révolution française, jusque sous le règne Napoléon Ier, tout au début du XIXe siècle. Donc ça fait une belle... De 1700 ou 1690 à peu près, jusque vers 1800-1805, dans le même village. Du fait que la Révolution a émancipé les Juifs de France. Ils ont pu sortir de leur ghetto, de leur rue aux Juifs, ils ont pu voyager et surtout, ils n'étaient plus astreints à la résidence forcée dans ces villages, comme c'était le cas depuis le Moyen-Âge et jusqu'à la chute de la royauté, jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Et voilà, donc, mon arrière-arrière-grand-père paternel déménageant de son village de Gundershofen dans la petite ville de Haguenau. Et il a pris racine là-bas, il a fait 13 enfants, et parmi ces enfants, mes arrière-grands-parents. Et de là, mes arrière-grands-parents, sous Louis-Philippe, ont quitté Haguenau pour la petite ville, encore plus petite que Haguenau, de Bischwiller, qui était une petite ville industrielle du textile. Le textile a fleuri au XIXe siècle. C'est le textile fondé par les usines, ou les fabriques, comme on les appelait, fondé par des familles protestantes, qui étaient là depuis le XVIIe siècle aussi. Et bon, mes arrière-grands-parents sont devenus marchands de draps. Et mes arrière-grands-parents d'abord, finalement mon père, vendaient ce drap-là sur les comptoirs de leur magasin de draps, de leur boutique de draps, dans la grande rue à Bischwiller, juste à côté de la vieille mairie. Et c'est là que je suis né, moi aussi. Je suis né début 1921, en janvier, dans la maison même où mes grands-parents, mes arrière-grands-parents et mon père, mes parents, avaient vécu. Et c'était profondément enraciné. Alors vous comprenez qu'il y a là vraiment une continuité étonnante. Et pourtant, Dieu sait que l'histoire de l'Alsace, à travers cette époque, toutes ces époques, n'était pas simple. Il y a eu une période de répit, peut-être sous Louis-Philippe, puis sous Napoléon III, mais entre-temps, il y a eu la guerre de 70. Après, il y a eu la guerre de 70, qui a été un traumatisme formidable pour les gens de là-bas. Il se fait que mes grands-parents paternels étaient très francophiles, pro-français, et comme bien d'autres de leur génération, eh bien, ils ont souffert des conséquences du traité de Francfort, de l'arrachement de l'Alsace à la France, la chute de l'Empire de Napoléon III. Et ils sont restés fidèles au souvenir français pendant toute cette période, d'un demi-siècle. C'est bien qu'il y avait une tradition francophile et même francophone, un tout petit peu, jusqu'à la fin, jusqu'en novembre 18, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Quand je suis né, dans mes premières années, les gens de la petite bourgeoisie, protestants, français, catholiques, aussi bien que juifs, parlaient le français, mais ne le parlaient que le dimanche. On appelait ça le français du dimanche. Mais en réalité, pendant toute mon enfance, et même encore plus loin, jusqu'après la Deuxième Guerre mondiale, je pense, en Alsace, on parlait presque partout le dialecte alsacien. On parlait le français quand on avait de la visite. Pour moi, évidemment, la vie a été très différente de celle de mes parents et de mes grands-parents, puisque bon, je suis né en 21. J'ai commencé à aller à l'école, à la grande école, c'était à l'école primaire en 26, à 5 ans, 5-6 ans. Et c'est là que les gosses de ma génération, des gosses qui venaient de tous les milieux et de trois religions, eh bien, il fallait qu'ils apprennent le français dont ils ne savaient pas un mot. Parce que ce français du dimanche, c'était l'apanage des familles bourgeoises seulement. Et ces gens, finalement, si j'y réfléchis aujourd'hui, entre les Vosges et le Rhin, et même la forêt noire de l'autre côté, on vivait encore tout à fait au rythme et dans la musique du 19e siècle, la musique d'existence. C'était une existence du 18e siècle finissant et du 19e siècle, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et comme mon enfance se passe immédiatement après, eh bien, moi aussi, j'étais encore plongé dans mon enfance, en tout cas, et même jusqu'à l'adolescence, dans ce qui restait du 19e et peut-être même de quelque chose de plus ancien. Justement parce que c'était un pays coincé entre deux mondes, deux empires culturels, deux langues qui s'excluaient. Alors nous, on était coincés entre les deux. À cela s'ajoutait la tradition juive, également très conservatrice, très repliée sur elle-même. Ces familles, ou ces quelques milliers de juifs alsaciens, vivaient entre eux à la campagne. Ils se mariaient entre eux très très longtemps, de village à village, souvent de famille à famille, dans la mesure du possible. Et ils commerçaient avec leurs voisins chrétiens, catholiques, protestants. Ils les connaissaient bien, ils parlaient presque le même dialecte, bien que ce ne soit pas tout à fait le même, là encore. La tradition juive étant encore plus ancienne que la tradition linguistique locale, chrétienne, protestante et catholique. Il y avait eu une certaine évolution, mais comme toujours, chez les juifs, partout, eh bien, les séquelles, les traces du passé le plus ancien, médiéval, se conservait dans la langue, dans le judéo-alsacien, beaucoup plus que dans l'alsacien classique, celui des chrétiens. Et moi, j'ai été élevé au milieu de tout ça, parlant un peu des deux. Et puis, le français. Alors, à l'école, s'est opéré le premier passage, extrêmement lent, du dialecte pur au français, avant l'école, avant la grande école, enfin l'école primaire. Seulement, il faut comprendre ça. Nous étions une trentaine, 35 à peu près gosses, dans la même école, dans la même école maternelle. On n'appelait pas ça école maternelle. Bon, on appelait ça la salle d'asile. Mais la salle d'asile en dialecte, puisque tout le monde ne parlait que le dialecte. Les maîtresses de l'école maternelle, les demoiselles Goebel et Staub, ne parlaient elles-mêmes que le dialecte. Le bon dialecte du nord, enfin du centre-nord de l'Alsace, et on allait à la salle d'asile. Alors ce mot de salle d'asile, c'est ainsi qu'on désignait les écoles maternelles au XVIIIe siècle, et si vous lisez les Confessions de Rousseau, il décrit ses premières expériences scolaires à Genève, à la salle d'asile, il utilise le mot dans les confessions. Eh bien, ce qui montre la permanence là, des traditions linguistiques en Alsace, à Bichwiller, dans le premier quart du XXe siècle, on désignait encore l'école maternelle par ce même nom. On appelait ça Zal d'asile en dialecte, enfin, dit. Et alors le français là-dedans, bon, eh bien c'était par les chansons. Les maîtresses d'école nous enseignaient des chansons françaises, des comptines. Aussi des chansons en dialecte, bien sûr, des chansons traditionnelles, donc en dialecte alémanique. Mais les chansons populaires françaises, Cadet Roussel, tout cela. Ah, pour nous, ça tombait comme du ciel, hein, parce que c'était loin, tout ça. Nous, les gosses, là-dedans, en famille, on n'entendait pas ces choses-là. Et lorsque, parce qu'on avait encore des servantes à cette époque-là, toutes les familles de la petite bourgeoisie avaient des servantes qui venaient des villages, ou alors d'origine carrément des milieux ouvriers de Bichwiller. Eh bien, ces filles chantaient, mais elles ne chantaient que des romances mélancoliques allemandes, du vieux temps, comme ça, pleines de sentiments nostalgiques à mourir de rire. Mais c'est ça qu'on entendait, nous, pleines de ce qu'on appelle Wehmut en allemand, c'est-à-dire pleines de schmerz, hein, et de schmalz alsacien et germanique. Ça, on l'entendait à la maison parce que les filles qui s'occupaient de nous et nos propres parents les chantaient. Ils avaient appris ça quand ils étaient petits, sous Bismarck, dans les écoles de l'époque. Mais nous, alors c'était le progrès formidable, nos maîtresses d'école de la maternelle nous apprenaient « Quand trois poules vont au champ » en français, mais on n'y comprenait rien. La plupart d'entre nous, oui. Dans ces quelques familles qui parlaient le français du dimanche, moi je comprenais ce que ça voulait dire. Mais la plupart des copains et des copines n'avaient jamais entendu un mot de français. Et nous sommes en 25, 24. Ben oui, 3-4 ans après 18, hein, après la fin de la Première Guerre mondiale, c'est normal. Mais c'est comme ça que peu à peu, donc pour moi, l'initiation au français s'est faite d'un côté le dimanche quand on avait de la visite chez nous. Mais vous savez, la visite s'amenait, on parlait le français pendant 10 minutes et puis on retombait tout de suite dans le dialecte. C'était fini le français du dimanche. Puis pour parler de choses et d'autres, c'était évidemment... C'était comme ça que, comme on dit en alsacien, on parlait comme le bec vous avait poussé. Wider Schnabel wachse ich. Comme le bec vous avait poussé. Mais tout de même, ça c'était un avantage. J'avais entendu parler de cela. Il y avait à la maison également des livres de mes tantes, de ma mère, de mes tantes, de mes oncles, de mon père. Des livres en français qu'ils avaient lus à l'époque allemande, en particulier des contes de Perrault en français, illustrés par Doré, par Gustave Doré, et des livres de la Bibliothèque Rose de la comtesse de Ségur, originaux, datant. J'en ai encore gardé 3 ou 4 très longtemps. C'était des éditions datant carrément de 1860, donc des éditions originales là, de la comtesse de Ségur qu'on avait chez nous, qui traînait au grenier. Et bien sûr, j'allais explorer les greniers de toute la famille et je trouvais ça. Alors j'avais tout ça, j'avais donc un avantage sur la plupart de mes copains et copines qui vraiment n'avaient jamais vu un livre en français avant d'aller à l'école. Et puis, les maîtresses nous apprenaient les comptines, les chansons populaires françaises. Par exemple, Malbrook Saint-Ouen. Ça vous fait sourire, mais pour nous, tout ça, ça venait de très loin, ça venait d'ailleurs. C'était un autre monde. Fin 27-28, à l'âge de 7 ans, 6 ans plutôt, 7 ans, bon, on est allé à 6 ans, oui, à la grande école. Pour la 9e et la 8e et la 9e. Et là, on a été... Alors là, au début, c'était encore en dialecte. Les premières semaines à l'école primaire, passant de la maternelle à l'école primaire, c'était encore, bien sûr, le dialecte. Comment faire avec 30 gosses ou 40 dans une classe qui finalement n'avait pas appris grand-chose à l'école maternelle, sauf des chansons. Et c'est beaucoup les chansons, c'est très important d'apprendre le français par la musique et par le chant, donc par la gorge, par la langue au sens littéral du terme. Ça a eu sur moi, je suis sûr, une influence formidable. Je ne sais pas si mes condisciples en ont tellement profité. Moi, en tout cas, j'en avais profité. Parce que tout s'est orienté à partir de là. Seulement, au bout d'un mois ou deux, d'abord, on a appris à faire des bâtonnets, à écrire, et les premiers exercices d'écriture et de lecture. Et ça, c'était en français. Pas tout de suite, je crois qu'il a dû s'écouler quelque temps jusqu'à ce qu'on soit capable de se mettre à lire, puisqu'il fallait apprendre l'alphabet, au fond. Je crois qu'à l'école maternelle, on n'avait pas appris l'alphabet, à peine. C'était lent et long à l'époque. Et alors, une fois qu'on a maîtrisé l'alphabet, je me souviens de cela comme si c'était hier, notre maîtresse d'école, de la grande école, en 9e, ou à la fin de la 10e, nous a dit, mais en dialecte, mes enfants, à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre le français. Elle nous a dit ça en dialecte, autrement la plupart des gosses n'auraient rien compris. Et puis, on avait un livre, un petit livre de mots, imprimé avec des images. Et à la première page de ce livre, qui était notre premier livre de lecture, on voyait un lapin qui détalait dans l'herbe. Comme ça, dessiné en noir sur blanc. Puisque les livres de couleurs n'existaient pas à l'époque, du moins pas chez nous. Et la maîtresse, qui s'appelait Madame Zimmermann, elle était très sympathique, très gentille, une belle jeune femme, comme ça, très, très opulente, enfin, très, très alsacienne d'aspect, hein, très, les yeux bleus, tout à fait clairs, les cheveux châtain blond. Très ouverte, très... elle nous aimait bien, elle nous faisait sentir à l'aise, elle nous faisait pas peur à l'école. Elle nous a dit, en tapant avec la règle sur son bureau, à partir d'aujourd'hui, nous allons apprendre le français. Silence de mort dans la classe, parce que c'était vraiment un changement. Et puis, elle a dit en dialecte, à moitié en dialecte, à moitié en français, elle a dit les paroles mémorables que je vais vous répéter. Ihr Kinder, mes enfants, posse nomme gut auf, faites bien attention, hit lehre mo Französisch. Aujourd'hui, nous allons apprendre le français. Alors nous, on dresse les oreilles, évidemment, inquiète ce qui va suivre. Et elle dit, lapin, Ich a horse. Un lapin, c'est un horse en dialecte. Un lapin, c'est un lapin en dialecte. Alors pour nous, c'est grande découverte, évidemment, toute la classe a parti d'un éclat de rire énorme parce qu'on voyait le lapin qui courait sur la page du livre. Mais nous apprenions, enfin nous, la plupart des gosses apprenaient pour la première fois que le lapin avait deux noms. Le nom en dialecte que tout le monde connaissait, d'autant plus que Bichuillère, qui est situé à 9 km du Rhin, dans un paysage de roseraies et de marécages et de sable, de sablières, était infesté de lapins. D'ailleurs, encore aujourd'hui, toute cette région le long du Rhin, de ce qu'on appelle le Ride, c'est-à-dire le pays du roseau, la roseraie, on y trouve beaucoup de lapins et de lièvres. Donc les lapins, on les connaissait. À tel point que les gens des villages avoisinants désigner les gens de Bichuillère du nom de lapin, justement. Parce qu'ils nous identifiaient aux lapins de cette région marécageuse. Donc, nous étions nous-mêmes des lapins, aux yeux des paysans des environs. Tous les Bichuillérois étaient des lapins. Alors, de nous apprendre que les lapins, que les horses, avaient un autre nom, donc que cet animal avait deux noms, ah, c'était une révélation formidable, et en même temps c'était à mourir de rire, mais ce n'était pas vrai aussi. Ou plutôt, ce que ça voulait dire, et que je l'ai compris comme ça, c'est que les noms, ou les mots, et les choses ont très peu de rapport. Que tout est vrai, tout est faux, et qu'il y a un hiatus entre ce qui est dit et ce qui est vu, senti, touché. Or, en Alsace, une des spécialités de l'Alsace, et surtout de cette région d'Alsace, forcément, c'est le civet de lapin ou de lièvre. Alors nous, on savait très bien ce que c'était que du civet de lièvre, on savait à quoi servaient les lapins. On savait aussi qu'à Pâques, les enfants recevaient des lapins de Pâques avec des œufs de Pâques dans le ventre, en chocolat, au lait. Mais ces lapins-là s'appelaient des hos, et pas du tout des lapins. Et tout à coup, ils avaient un autre nom. Bref, plonger tout à coup dans les problèmes de haute métaphysique et de philosophie et de psychiatrie, parce que par derrière, tout cela signifiait qu'on était sûr de rien, que la linguistique, comme la politique, comme l'histoire des provinces, des familles, des religions, était sujette à des doutes perpétuels. Et en même temps, il y avait de quoi rire et se méfier, et ne pas tout croire. Bref, la complexité, les contradictions de la vie le long de la frontière se révélaient soudain, comme ça, par la langue même. C'était donc pas si simple de naître en Alsace, de vivre en Alsace, d'y grandir, d'y parler. Comment faire ?
Le premier volet de La Voix nue de Claude Vigée par Michel Cazenave a été diffusé pour la première fois le 24 décembre 2001. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr.